Deuxième partie, le deuxième âge. 1. Une description de l'île de Númenor. Le portrait de l'île de Númenor donné ici est tiré de descriptions et de cartes assez rudimentaires qui furent longtemps conservées dans les archives des rois du Gondor. Elle ne représente guère qu'une minime partie des écrits d'autrefois, car maints traités d'histoire naturelle et de géographie avaient été composés par les plus érudits de Númenor. Mais ces traités devaient disparaître lors de la submersion de l'île, comme presque toutes les autres productions artistiques et savantes de Númenor remontant au temps de sa gloire. Et devaient être perdus ou détruits par négligence jusqu'aux documents conservés au Gondor ou à Imladris, où avaient été déposés à la garde d'Elrond les trésors rémanents des rois Númenoréens du Nord. Car si les rescapés vivant en terre du milieu se languissaient, disait-il, d'Akalabeth la déchue, et même des siècles après, s'obstinaient à se considérer un peu comme des exilés, lorsqu'il devint évident que le pays du Don leur avait été repris et que Númenor avait disparu à jamais, bien rares furent ceux qui s'intéressèrent aux lambeaux de son histoire, la plupart n'y voyant qu'une source de regrets inutiles. Et aux époques plus tardives, on ne se souvenait plus guère que du récit d'Ar-Pharazôn et de son armada impie. Le pays de Númenor ressemblait, en son dessin, à une étoile à cinq branches, ou pentacle, avec une portion centrale mesurant quelque 250 milles, tant d'est en ouest que du nord au sud, qui projetait dans la mer cinq vastes promontoires péninsulaires. On considérait ces promontoires comme autant de régions distinctes, et ils avaient pour nom Forostar, terre du nord, Andustar, terre de l'ouest, Yarnustar, terre du sud-ouest, Yarostar, terre du sud-est, et Orostar, terre de l'est. La portion centrale de l'île s'appelait Mithalmar, terres intérieures, et elle n'avait pas accès à la mer, sauf pour la contrée environnant Roména et la tête de son estuaire. Une partie restreinte du Mithalmar se trouvait cependant séparée du reste et avait nom Arondor, les terres du roi. En Arondor se trouvait le port de Roména, le Meneltarma, et Armenelos, la cité des rois. Et ce fut de tout temps la région la plus peuplée de Númenor. Le Mithalmar dominait les promontoires, sans prendre en compte l'altitude de leurs montagnes et collines. C'était une région de landes herbeuses et de coteaux, et peu d'arbres y poussaient. Presque au cœur du Mithalmar se dressait la haute montagne que l'on appelait le Meneltarma, le pilier des cieux, consacré au culte d'Eru Ilúvatar. Si les pentes inférieures de la montagne étaient peu abruptes et gazonnées, les versants se faisaient toujours plus escarpés et, vers le sommet, défiaient l'escalade. Mais une route sinueuse avait été tracée depuis la souche du versant sud et s'achevait sous la corniche faîtière au nord, car le sommet était quelque peu aplani et écrasé, et il aurait pu contenir une grande multitude. Mais il demeura inviolé durant toute l'histoire de Númenor. Point d'édifice, point d'hôtel dressé là, pas même un amoncellement de pierres brutes. Et en tous ces jours de grâce qui furent les leurs, les Númenoréens ne possédèrent nulle autre semblance de temple, et ce, jusqu'à la venue de Sauron. Sur la montagne sacrée, personne jamais ne porta d'outils ou d'armes. Et là, personne ne devait prononcer une parole sinon le roi. Trois fois l'an uniquement, le roi parlait, offrant une prière pour l'année à venir au temps de l'Eru Kiyarimé, au premier jour du printemps, des louanges en l'honneur d'Eru Ilúvatar à l'Eru Ilaitale, à la mi-été, et des actions de grâce lors de l'Eru Antale, à la fin de l'automne. En ces trois occasions, le roi gravissait la montagne à pied, suivi d'un grand concours de personnes vêtues de blanc et parées de guirlandes, mais silencieuses. Le reste de l'année, les gens avaient liberté de grimper au sommet, seuls ou de compagnie, mais on raconte que le silence était tel que même un étranger ignorant tout des coutumes de Númenor et de son histoire, s'il se trouvait transporté en ces lieux, n'aurait point osé émettre un son. Jamais oiseau ne visitait la montagne, hormis les aigles. Et si quelqu'un s'approchait du sommet, trois aigles surgissaient incontinent et se juchaient sur trois rochers proches de la corniche ouest. Mais quand revenait le temps des trois prières, les aigles ne se posaient pas, mais tournoyaient dans le ciel au-dessus de la foule. On les appelait les témoins de Manwë, et on les croyait mandés par lui depuis Aman pour veiller sur la montagne sacrée et sur tout le pays. À sa base, le Meneltarma s'affaissait en pente douce vers la plaine environnante pour s'étendre, à la manière des racines des arbres, en cinq chaînons de collines basses prenant les directions des cinq promontoires. Et on nommait ces contreforts les Talmasundar, les racines du pilier. La route d'accès à la montagne cheminait en crête sur la racine du sud-ouest, et entre cette crête et celle du sud-est, les terres se creusaient en une vallée peu profonde. On l'appelait Noirinan, la vallée des tombeaux, car à sa tête, on avait excavé dans le pied rocheux de la montagne des chambres funéraires qui abritaient les tombes des rois et des reines de Numenor. Mais en sa plus grande partie, le Mithalmar formait une région de pâturage. Au sud-ouest se déployaient des collines d'herbes ondoyantes, et là, dans les Mériers, se trouvait le principal séjour des bergers. Le Forostar était de toutes les régions la moins fertile, pays pierreux aux arbres rares, sauf pour le versant ouest où les forêts de sapins et de mélèzes s'étendaient parmi les bruyères qui recouvraient les hautes landes. En direction du Cap Nord, le pays s'élevait vers des hauteurs rocailleuses, et là se dressait, abrupte, le puissant Solontil, dont les hautes parois tombaient à pic dans la mer. Et c'était le repère de nombreux aigles. Et dans cette région, Tar-Meneldur el-Entirmo construisit une tour élevée d'où il pouvait observer le mouvement des astres. L'Andustar était également une terre rocailleuse en sa partie septentrionale, avec de grands bois de sapins qui surplombaient la mer, et il y avait trois petites baies qui s'ouvraient vers l'ouest, découpées dans les terres du plateau. Mais en plusieurs endroits, la falaise s'élevait un peu en retrait de la mer et les terres à son pied allaient s'inclinant doucement vers le rivage. Au nord était la baie d'Andouniyé, où se trouvait le grand havre d'Andouniyé, soleil couchant, avec sa ville en bord de mer et ses nombreuses habitations à flanc de coteaux. Mais l'Andustar méridional était une grande région fertile, et sur ses hauteurs foisonnaient les grands bois, bouleaux et hêtres, et dans les vallées en contrebas poussaient des chênes et des ormes. Entre les promontoires de l'Andustar et de l'Yarnustar s'échancrait la vaste baie nommée Eldana, parce qu'elle était tournée vers Eressëa. Et les contrées alentour, à l'abri du nord et ouvertes sur les mers de l'ouest, étaient chaudes, et là tombaient les plus importantes pluies. Et au cœur de la baie d'Eldana était le plus beau port de tout Numenor, Eldalondë le Vert. Et là, dans les premiers temps, venaient mouiller le plus souvent les blanches et rapides nefs des Eldar. Et dans les parages de ce lieu, sur les versants marins et loin à l'intérieur des terres, poussaient des arbres odorants aux feuilles persistantes que les Eldar avaient apportées de l'ouest. Et ils avaient tant prospéré que c'en était beau, disaient les Eldar, presque comme un port d'Eressëa. C'était le plus grand charme de Numenor, et le souvenir de ces arbres devait se perpétuer dans les champs bien longtemps, même après avoir à jamais disparu. Car rares furent ceux qui fleurirent à l'est du pays du Don. L'Oyorairé et le Leirelossé, le Nessamelda, le Valdariana, le Tanikelassé et le Yavanamiré, avec ses fruits ronds et écarlates. Et de douces senteurs émanaient de la fleur, de la feuille et de l'écorce de ces arbres, et leurs arômes confondus embaumaient tout le pays. D'où son nom, Nizilmadar, les arbres parfumés. Et on en avait planté en d'autres régions de Numenor, et ils avaient poussé, mais bien moins abondamment. Et seulement en Isilmadar se plaisait le Malinorné, grand arbre qui, au bout de cinq siècles, atteignait une hauteur à peine moindre que celle qu'il avait à Eressëa même. Son écorce était lisse et argentée, et ses rameaux se relevaient légèrement vers le ciel comme ceux du hêtre. Mais il n'avait jamais qu'un seul et unique tronc. Ses feuilles ressemblaient aussi à celles du hêtre, mais plus larges, et elles étaient d'un vert pâle à la vert et toutes d'argent à l'envers et chatoyantes au soleil. Et elles ne tombaient pas à l'automne, mais prenaient la couleur de l'or pâle. Au printemps, l'arbre fleurissait d'or, et les fleurs s'épanouissaient en grappes comme des cerises qui continuaient à fleurir tout l'été. Et dès qu'elles étaient écloses, les feuilles se détachaient, de sorte que le printemps et l'été durant, Une futaie de Malinorni avait voûte et tapis d'or, mais les piliers étaient d'argent gris. Et son fruit était une noix en une écale d'argent. Et Tar-Aldarion, le sixième roi de Númenor, en offrit quelques-uns au roi Gil-galad du Lindon. En cette terre-là, elles ne prirent point racine, mais Gil-galad en donna à Galadriel, sa parente. Et par l'effet de son pouvoir, les noix germèrent et se multiplièrent en Lothlorien, le pays gardé au bord du fleuve Anduin, et ce, tant que les hauts elfes vécurent en terre du milieu. Mais les Malinorni ne devaient jamais atteindre là-bas la hauteur et la vigueur des grandes futaies de Númenor. Le fleuve Nunduiné se jetait dans la mer à Eldalondé, et en chemin, il alimentait le petit lac de Nisinen, ainsi nommé pour le foisonnement sur ses rives de fleurs et buissons aux doux parfums. Ljarnustar était en sa partie occidentale une région montagneuse avec de hautes falaises donnant sur les rivages ouest et sud. Mais à l'est, il y avait de vastes vignobles qui poussaient sur une terre chaude et fertile. Les promontoires de Ljarnustar et du Jarostar s'évasaient largement, et sur ces longues rives, mer et terre se mêlaient paisiblement l'une à l'autre, comme nulle part ailleurs à Númenor. Ici affluait le Cyril, le principal cours d'eau du pays. Car hors le Nunduiné, les autres cours d'eau n'étaient que de brefs torrents impétueux qui se ruaient vers la mer. Mais le Cyril sourcillait au pied du Meneltarma dans la vallée de Noirinan et courait vers le sud en traversant le Mithalmar avant de devenir, en aval, un fleuve sinueux. Il se déchargeait enfin dans la mer parmi de vastes marécages et des lits de roseaux et ses nombreuses petites embouchures se frayaient des chemins instables dans les grands sables. Car de part et d'autre se déployaient sur plusieurs lieues des plages de sable blanc et de galets gris, et là séjournaient la plupart des pêcheurs, dans des villages bâtis sur les marais et les étangs, dont le principal était Nindamos. Au Jarostar poussait abondance d'arbres de toutes essences, et parmi eux, le Laurinque, qui faisait l'enchantement des populations par ses fleurs, car il n'était bon à nul autre usage. On lui avait donné ce nom en raison de ses longues grappes de fleurs jaunes. Et certains pensaient, qui avaient entendu les Eldar parler de l'Aurelin, l'arbre d'or du Valinor, que leur arbre était issu de cet arbre illustre et que la semence en avait été apportée par les Eldar. Mais ce n'était point vrai. Dès le temps de Tar-Aldarion, il y avait de grandes plantations d'arbres au Jarostar qui fournissaient le bois d'œuvre pour les constructions navales. Lorostar était une contrée plus fraîche, mais protégée des vents froids soufflant du nord-est par les hautes landes qui s'élevaient en bout de promontoire. Et sur les terres intérieures de Lorostar, on cultivait quantité de céréales, et en particulier sur les terres qui jouxtaient l'Arandor. Telle était l'île de Númenor, posée sur les flots comme si elle avait été projetée hors de la mer, et basculée vers le sud et légèrement vers l'est. Et sauf au sud, partout l'île tombait dans la mer en abruptes falaises. À Númenor, les oiseaux de mer et de rivage, ceux qui nagent et qui plongent dans l'eau, nichaient en des multitudes telles qu'on ne les pouvait dénombrer. Et les marins avaient coutume de dire que même aveugles, ils sauraient que leur navire vogue à proximité de Númenor rien qu'à la haute clameur des oiseaux sur le rivage. Car lorsqu'un navire survenait à l'horizon, se levaient dans l'air des hardes entières d'oiseaux de mer qui volaient à sa rencontre pour lui souhaiter joyeuse bienvenue, car on ne les tuait jamais, ni ne les molestait-on délibérément. Certains oiseaux accompagnaient les navires en leur périple, même ceux qui allaient jusqu'en terre du milieu. Et il y avait semblable foisonnement d'oiseaux à l'intérieur des terres, car innombrables étaient les oiseaux de Númenor. Des Kirinki, lesquels n'étaient guère plus grands que des roitelets, mais écarlates avec des voix flûtées tout juste perceptibles à l'ouïe humaine, aux grands aigles, considérés comme les oiseaux sacrés de Manwë, et qu'on n'inquiéta jamais jusqu'au jour où le mal s'empara du pays et que s'instaura la haine des Valar. Et 2000 ans durant, depuis l'époque d'Elros Tar-Miniatur jusqu'au temps de Tar-Ankalimon, fils de Tar-Atanamir, il y eut une ère au sommet de la tour du palais du roi à Armenelos. Et un couple d'aigles y nichait toujours, qui vivait de la munificence royale. À Númenor, tout le monde se rendait d'un lieu à l'autre à cheval, car les Númenoréens, tant hommes que femmes, étaient des cavaliers passionnés. Et tous ceux de ce peuple aimaient les chevaux, les traitaient avec honneur et les hébergeaient de noble façon. Et aux chevaux, on apprenait à percevoir les appels venus de loin et à y répondre. Et il est dit dans les vieux contes que lorsqu'il y avait un grand amour entre un cavalier, homme ou femme, et son coursier favori, il pouvait le faire venir à lui par simple opération de pensée. C'est pourquoi les routes de Nouménor étaient non pavées, pour la plupart, faites et entretenues à l'usage des cavaliers, car au cours des premiers siècles, on ne se servait guère de voitures et de charrettes, et les chargements lourds voyageaient par mer. La route principale et la plus ancienne, adaptée aux roues, reliait Romena, le port le plus important sur la côte est, à la cité royale d'Arménélos, et de là se poursuivait vers la vallée des tombeaux et le Meneltarma. Et très tôt on prolongea cette route jusqu'à Ondosto, passé les frontières du fort Ostar, puis de là jusqu'à Andounié, à l'ouest. Sur cette route passaient les charrois de pierre en provenance des terres du nord, les plus demandés pour la bâtisse, et ceux de bois de construction, lequel abondait dans les terres de l'ouest. Outre les coutumes et traditions qui leur étaient propres, les Edain emmenèrent à Nouménor des savoir-faire dans divers arts et de nombreux artisans formés par les Eldar. Mais ils ne purent apporter que peu de matériaux, hors les outils de leur métier. Et pendant longtemps, il n'y eut de métal à Nouménor que les métaux précieux. Ils avaient emporté maints trésors d'or et d'argent et de pierreries aussi bien, mais ils n'en trouvèrent point à Nouménor. Et ils les aimaient pour leur beauté, et c'est cet amour qui devait éveiller en eux la cupidité à une époque plus tardive, lorsqu'ils tombèrent sous l'emprise de l'ombre et se firent pleins de superbes et injustes dans leur commerce avec les petites gens de la terre du milieu. Des elfes d'Elessea, au temps où ils étaient amis, ils recevaient parfois des présents d'or et d'argent et de joyaux. Mais durant tous les premiers siècles, cela demeura chose rare et précieuse. Et ainsi, jusqu'à ce que le pouvoir des rois s'étendît aux rives orientales de la terre du milieu. Ils découvrirent certains métaux à Nouménor, et à mesure que se développa prestamment leur habileté aux travaux de la mine, de la fonderie et de la forge, les objets de fer et de bronze devinrent choses courantes. Parmi les artisans des Edain, il y en avait qui étaient bons armuriers, ayant acquis, grâce aux enseignements des Noldor, une grande adresse à forger les épées et les fers de hache, les fers de lance et les couteaux. Et des épées, la guilde des forgerons armuriers continuait d'en faire afin d'en préserver l'art, mais le plus gros de leur travail consistait en la fabrication d'outils à usage pacifique. Le roi et la plupart des grands seigneurs possédaient des épées, reçues en héritage, et qui leur venaient de leur père, et il leur arrivait encore d'offrir une épée comme cadeau à leurs héritiers. On forgeait une épée neuve pour donner à l'héritier du roi le jour où ce titre lui était conféré. Mais aucun homme ne portait l'épée à Nouménor, et durant de longues années, il n'y eut que bien peu d'armes de guerre forgées dans le pays. Les gens avaient des haches et des javelots et des arcs, et le tir à l'arc, à pied ou à cheval, était un des sports et passe-temps favoris des Nouménoréens. Plus tard, lors des assauts sur la terre du milieu, ce furent les arcs des gens de Nouménor qui devaient inspirer la plus sombre terreur. Les hommes de la mer, disait-on, projettent devant eux un grand nuage, telle une pluie qui devient serpent, ou une noire grêle aux pointes de fer. Et en ces temps-là, les puissantes cohortes des archers du roi utilisaient des arcs en acier creux et des flèches à plumes noires, longues d'une bonne aune, de la pointe à l'encoche. Mais longtemps les équipages des grandes nefs nouménoréennes étaient venus sans armes parmi les hommes de la terre du milieu. Et bien qu'ils eussent des haches et des arcs à bord, pour abattre des arbres comme bois d'œuvre ou pour chasser leur nourriture sur les rives sauvages que nul ne revendiquait, ils laissaient leur attirail à bord lorsqu'ils recherchaient la société des hommes du pays. Et ce fut là d'ailleurs leur principal grief lorsque l'ombre peu à peu gagna les côtes et que les hommes, avec qui ils avaient noué amitié, devinrent craintifs ou hostiles, que le fer utilisé contre eux l'était par ceux-là même à qui ils en avaient dévoilé les pouvoirs. Plus qu'à tout autre plaisir ou labeur, les hommes forts de Nouménor s'enchantaient de la mer, prenant joie à nager, à plonger ou à la course sur de légers esquifs, à la rame ou à la voile. Les plus hardis étaient les pêcheurs. Le poisson foisonnait sur les côtes, et de tout temps ce fut, à Nouménor, une des principales sources de nourriture. Et toutes les villes où les gens vinrent en nombre se fixer avoisinaient les rivages de la mer. C'est de la communauté des pêcheurs qu'était issue la majorité des navigateurs, qui, au fil des ans, acquirent grande importance et considération. On dit que lorsque les Edain appareillèrent pour la première fois sur la grande mer pour suivre l'étoile jusqu'à Nouménor, chaque nef elfique qui les portait était pilotée et gouvernée par un Elda mandaté par Círdan. Et lorsque les elfes nautonniers repartirent, emmenant avec eux le plus grand nombre de leurs vaisseaux, une longue période passa avant que les gens de Nouménor ne s'aventurassent eux-mêmes en mer. Mais il y avait parmi eux des charpentiers de nefs formés par les Eldar, et par leurs propres études et ingéniosités, ils se perfectionnèrent dans leur art jusqu'à enfin oser partir en mer et toujours plus loin en haute mer. Lorsque 600 ans se furent écoulés après l'avènement du deuxième âge, Vianthur, capitaine des navires du roi sous le règne de Tar Elendil, parvint le premier à rallier la terre du milieu. Il conduisit son navire, l'Entulesse, qui signifie « retour », jusqu'au Mithland, profitant des vents printaniers soufflant de l'ouest. Et il revint à l'automne de l'année suivante. Depuis lors, l'art de la navigation devint pour les hommes de Nouménor la principale épreuve d'audace et d'endurance. Et Aldarion, fils de Meneldur, dont l'épouse était fille de Veantur, institua la guilde des aventureux, à laquelle s'affilièrent tous les marins expérimentés de Nouménor, comme il est relaté dans le récit qui suit.